Bonjour à tout le monde. J'ai eu beaucoup de joie à préparer ce temps. Beaucoup de joie. C'est pas tout le temps le cas, hein. C'est des fois c'est plus dur que d'autres fois. Alors là, dis donc, j'étais comme irriguée, rafraîchie, renouvelée. Alors je suis toute contente. Et on vit des temps. Alors peut-être que justement, on a beaucoup parlé du regard dans la louange. Merci à Anna et David. Hein. C'était et puis le dessin aussi, l'œil. Là. C'est énorme parce que c'est exactement. Enfin, il y a un focus sur le regard. Qu'est-ce qui se passe? Comment voir le regard de Dieu? Et on vit des temps absolument fabuleux. D'abord, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des tas de voyages là, qui sont en cours. Il y a ceux que vous connaissez. Donc, on a dit Mexique, USA, Mauritanie, Madagascar. Actuellement, c'est Belgique pour Luc, hein, c'est ça. Et puis, j'aurai quand même le Sénégal. Hein, il y a une grosse équipe de l'école Daniel qui part en même temps, la même semaine, le 22 octobre. Je ne sais pas comprendra pour ça la semaine prochaine, pour le Sénégal. Ah ben oui, la Norvège, bien sûr, c'est impressionnant. On avait dit il y a longtemps, je rappelle ça aux anciens, on avait eu à l'époque une vague de voyage. Et après, il y a eu comme un reflux. Et on avait dit, bah oui, il y a un reflux, mais après, c'est une vague qui va avoir beaucoup, beaucoup plus puissante que celle qu'on a vécue dans les années, je ne sais pas moi, 90, début 2000. Donc, préparons-nous. Et puis, il y a aussi cette parole prophétique tellement forte qui dit que la lance donnée il y a longtemps à la France pour impacter les nations, elle avait été cassée par les lumières, l'humanité, tout ça. Mais c'est un temps exaltant où elle est redonnée à France et rien ne pourra arrêter cette lance d'impacter les nations. Et puis, tous ceux qui partent, c'est les pointes de la flèche. Et nous, on est tous là et ça fait que la flèche part beaucoup plus loin parce qu'on est tous là pour tenir pour encourager, prier pour, etc. Donc, c'est un temps absolument fabuleux. Alors là, vous allez dire aujourd'hui, 8 octobre, dimanche normal. Non, 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 non. C'est pas du tout un dimanche normal. Discernant des temps, fonction d'histoire. Aujourd'hui, 8 octobre, on est le dimanche, au cœur d'une fête énorme qui est fête des cabanes, fête des soukottes, tabernes. Et, année 2017, on fête en plus les 50 ans de la réunification de Jérusalem, jubilé. Donc la conjonction des deux, c'est quand même énorme. Alors cette fête, je vais quand même devoir faire des petits rappels parce que les anciens de Josué, ils connaissent assez bien cette fête, ça fait pas mal de temps qu'on en parle, la vie. On l'a même vécu avec Daniel, hein, plusieurs fois. Mais je pense que pour beaucoup de monde, c'est quoi cette chose? Alors, tout le monde connaît Pâques, hein, quand même. Tout le monde connaît la suite. Après, la deuxième, Pentecôte. Après, vous allez me dire, la troisième chrétienne, c'est Noël. Noël, désolé, vous oubliez parce que c'est pas une fête biblique. Bon, il y en a une troisième. désolé. Donc il y a trois grandes fêtes, si vous voulez, les fêtes où les gens étaient, enfin tous les enfants, tous les hommes, les garçons, étaient obligés, c'est un commandement de l'Éternel, de monter à Jérusalem. Rappelez-vous, hein, Jésus, il est monté à 12 ans, hein, il était homme, hop, il est monté à Jérusalem avec toute la famille, enfin, c'est des temps de vraiment, où tout le monde quitte son quotidien, va à la rencontre de Dieu à Jérusalem, des temps de retrouvailles, de festivités, et figurez-vous que cette fête en train de vivre, eh ben, c'est la plus joyeuse des trois. Alors, et ce qui est impressionnant, c'est que les chrétiens, ils la connaissent. Pas, ils la vivent pas. Et les juifs, très longtemps, ils n'ont même pas fêté non plus. Oui, alors ça, par contre, on voit ça ouais. Depuis l'époque de Josué, figurez-vous, ils l'ont pas fêté jusqu'à. Allez, dites-moi, jusqu'à quand? Ils l'ont pas. Et après, à quel moment ça a été remis en vigueur cette fête? Non, pas en 67 quand même, hein, avant. Non, même pas David, ça c'est très étonnant, même pas David. Même pas. Néhémie. Merci Esther, Néhi. Et là, ils ont relu la Torah, ils ont dit, oh là là, mais cette fête, il faut la fêter quand même. Et voilà, c'était reclenché. Alors, par contre, à l'époque de Salomon, la dédicace de le temple, ça s'est fait au moment de la fête des tabernacles. Et c'est une fête très très joyeuse. Alors, rappelez-vous, il se trouve que je suis intervenu juste pour Rosh Hashanah, il n'y a pas très longtemps. Hein. Après, il y a eu Yom Kippour, on a eu le tabernacle juste à ce moment-là. Et maintenant, on est dans donc, la fête des tabernacles. Je peux vous dire qu'en Israël, elle est vraiment fêtée. Même nos amis laïcs qui ne sont pas là ce matin, ils l'ont fait. Enfin, la fête dure 8 jours. Elle a commencé mercredi soir, donc jusqu'au mercredi prochain. Et puis, ça se voit très très fort en Israël parce que chacun a justement une cabane. Alors, cabane dans le jardin, cabane sur les balcons. Et puis, les laïcs, ils ont fait une cabane dans le salon parce que dehors, c'est un peu frisqué en ce moment. Mais on mange dans la cabane. Et nous, on a fait des cabanes à l'école d'Ania il y a quelques années. On allait faire goûter les élèves des cabanes. Alors, on va dire, bon, c'est sympa, c'est un petit folklore sympathique. non, c'est pas du tout du folklore. C'est très 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 profond. Alors, trois fêtes, ça parle de trois, comme Trinité, comme le chiffre 3, vous savez. Et c'est très intéressant, cette fête, parce que vous avez cette notion de Trinité. Alors, Pâques, c'est la nouvelle naissance. Donc, c'est l'Esprit qui est né de nouveau. L'Esprit, il vit avec Pâques. Hein. Puis, on est justifié par le sang de Jésus, ça, c'est Pâques. Pentecôte, c'est le don d'Esprit. Hein. C'est aussi le don de la Torah. Parole, esprit, ça va ensemble. Et l'esprit, il nous conduit à la vérité. Donc l'esprit, il est vivant à Pâques. L'esprit nous conduit dans la vérité, ça nous parle de toute la restauration de l'âme à travers la parole. Hein, ayant purifié nos âmes par l'obéissance à la vérité, par l'esprit, dans la parole. Donc il y a tout ce chemin. Et en plus, c'est la première récolte en Israël, la récolte du début de l'été. Et ça nous parle du commencement de la moisson des nations. Il y a eu plein de nations à Pentecôte, rappelez-vous, hein, avec les apôtres. Donc ça, c'est la deuxième fête. Ben, la troisième, vous allez dire, c'est quoi alors? Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et le corps. Et là, c'est très peu connu, on se demande bien pourquoi, parce que ça nous parle d'un événement qui, historiquement, ne s'est pas encore passé, parce que Jésus est venu, donc Pâques, c'est fait. Pentecôte, l'Esprit de Dieu a été répandu, c'est fait. La troisième, c'est pas encore fait. La glorification de nos corps, la résurrection des corps, enfin, tout ce qui a trait au corps physique, c'est pas encore fait. Donc, c'est encore prophétique. Mais justement, on raisonne plus pour lui, puisqu'on fait un acte prophétique quand on le fête. Donc, ça, c'est énorme. Et puis, on parle des trois dimensions. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, ça nous dit chemin à travers le sang de Jésus, le chemin de rédemption. La vérité, l'esprit, qui nous conduit dans la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La vie éternelle, la vie de résurrection. C'est la troisième étape. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est une fête qui a plein de facettes. Elle a plein de facettes. Et chaque, il y a pas mal d'années qu'on en parle à Josué. Et à chaque fois, on découvre d'autres facettes. Et alors, cette année, j'étais conduite avec une facette spécifique quand même. Mais quand même, je vais vous donner quand même toutes les autres facettes, enfin, quelques autres facettes, parce que c'est tellement énorme, cette fête, que moi, je l'ai vécu, on l'a vécu. Manuel aussi, elle était là. Plus, on était tout un petit groupe. Pierre Kanga aussi. On y est allé en 83. Je peux vous dire, ça vous change la vie, cette fête. C'est énorme, énorme de vivre ça là-bas. Et alors, qu'est-ce de spécial? Oui, on célèbre. Quelques aspects prophétiques de cette fête, hein, pour vous dire qu'on peut passer des heures et des heures et des jours à passer cette fête. Célébration de la moisson finale, donc Shavuot Pentecôte étant la première moisson, et ça nous parle de la moisson de la fin des temps. C'est pas énorme, hein. Ça prophétise la moisson de la fin des temps. Ensuite, Nombre 29 nous l'explique, dans Nombre, hein, on demandait qu'il y ait des sacrifices de taureaux. Et c'était 70. 70, à l'époque, c'est le chiffre des nations du monde. C'est une offrande de sacrifice pour toutes les nations du monde. Et c'est un appel aussi à toutes les nations à monter à Jérusalem pour cette fête. Autant les deux premières fêtes, c'est vrai que ça concerne Israël, hein, mais là, les nations, on est très concernés. Et si, Alice, tu pouvais projeter Zacharie 14, parce que Zacharie 14, ça nous parle justement de cette fête des tabernacles de manière très prophétique. Qu'est-ce qui va se passer dans la fin des temps avec cette fête et avec Jérusalem? Et on va dans Zacharie 14, alors j'ai donné le verset exact, je peux le projeter. Donc c'est à partir du verset 16. Donc c'est après plein de tribulations, jugements, etc. Zacharie 14, verset 16, tu l'as, sinon pense à lire. Alors, tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, alors ça c'est fort parce qu'on sait qu'il y a un conflit mondial contre Israël, hein, l'ONU, etc., ils sont tous contre Israël, mais ceux qui subsisteront de toutes ces nations, alors même qu'elles étaient venues contre Israël, monteront chaque année, voilà, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Alors, verset 17, s'il y a des familles de la terre, et les familles, ce n'est pas forcément les nations au sens politique du terme, hein, famille, peut-être la famille alsacienne aussi, hein, famille de la terre, des clans de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Verset 18, si la famille égyptienne, d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappa les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ensuite, verset suivant, verset 19, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Et verset 20-21, en ce jour, on mettra sur les clochettes des chevaux sainteté à l'Éternel. Les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les soupes, des coupes dans l'autel. Toute chaudière à Jérusalem dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront, s'en serviront pour cuire les viandes, et plus de marchands ou de cananéens dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Ça nous parle d'un temps où la sainteté sera dans le quotidien, sera dans les actes très concrets, les actes quotidiens. Ça veut dire que la gloire, la connaissance de la gloire de Dieu va remplir la terre, que la sainteté de Dieu sera partout, et puis qu'il y aura plus de marchands au sens babylonien du terme. Vous voyez ce que je veux dire, l'esprit de Babylone. Donc ça, c'est l'avenir, c'est notre avenir. Et quand les nations montent à Jérusalem, elles prophétisent ce temps extraordinaire qui est une vérité de la parole, c'est incontournable, c'est une vérité. Et je vais demander à la liste de lancer, j'ai pas d'accessoires, mais j'ai amené deux petites vidéos. Alors la première, pour montrer, c'est l'ambassade chrétienne à Jérusalem, c'est ça, la première vidéo, tu vois. Si on peut éteindre, je sais pas si on peut éteindre pour qu'il y ait moins de... Parce que c'est, voilà. ça dure une minute et quelques, hein, c'est tout, tout très court. Mais c'est pour vous donner, pour vous dire, dire qu'est-ce qui se passe en ce moment en Israël. Hein. On est en plein cœur hein, en ce moment. Si la technique veut marcher. La technique. J'appuie sur le truc là.
Once in a lifetime, there comes a moment that not only changes a nation, it changes the world.
Il y a des moments où il
est... It was the realization of a thousand-year-old dream that altered the course of history. During the turmoil of the Six-Day War, an opportunity emerged to reunify the...
Au moment de la guerre des six jours, de réunir les deux parties de Jérusalem. Là, c'est le moment historique de 67. Les deux parties de Jérusalem ont été réunies. Le 10h20 du matin, le 7 juin 1967. À ce moment, nous sommes en train de passer la porte du lion. Le temps de Dieu est en main. Un moment de joie extraordinaire. Béni sois-tu, Dieu lion. Le rebaptiste, le bâtisseur de Jérusalem.
The Feast of Tabernacles 2017 marks 50 years since it divided
city. Et la fête des tabernacles 17 marque le 50e anniversaire de cet événement. Le grand endroit où les nations. Regardez, toutes les nations du monde sont réunies. C'est fabuleux, extraordinaire. Salle, vous avez les nations asiatiques, avec leurs costumes, leurs contrôles, leur culture, ils adorent tous ensemble, c'est fou. Les asiatiques. Alors venez, cette fête des tabernacles dans la maison de Dieu, dans la cité de Dieu. Ici, c'est au 11 octobre. Parce qu'il est en train de se passer, toutes nations envoient des délégations, j'espère que la France elle a fait ce qu'il fallait, des délégations, on a vécu ça en 1983, il y avait encore, certainement que ça a dû énormément grandir depuis l'époque, cette époque, mais c'est, on peut pas imaginer, je crois qu'il faut le vivre, voilà, tu peux arrêter, on peut pas, c'est cette dimension des nations, ça élargit notre cœur de manière extraordinaire, parce qu'on voit les nations, délégation par délégation, avec leur culture, leur beauté, il y a une beauté dans les nations extraordinaire, ça m'émeut, parce que c'est on a une petite idée de ce que va être l'éternité, avec toutes les nations qui amènent leurs offrandes et leur adoration à Dieu à Jérusalem. C'est extraordinaire. Et je crois qu'il y a une ampleur, ça monte. Il y a de plus en plus de délégations qui viennent et de nations qui viennent. Et on est au cœur de ce qui se passe en ce moment, vous voyez. Jérusalem, le cœur de Dieu, il est sur Jérusalem. Il est au Kotel. Enfin, il a dit que son regard sera toujours sur le Kotel, le mur occidental. C'est le cœur même de Dieu. Et donc, c'est très important que nous, les chrétiens, on soit branchés, on comprenne ce que Dieu est en train de faire. Il attire les nations entières et c'est un ordre de Dieu. On parle d'alignement avec la parole, l'épée. L'alignement de la parole dit montez à Jérusalem. Et nous, on avait entendu cette notion. On fait des actes fous hein, pour y aller en Israël. Il faut faire des actes fous. C'est normal qu'on fasse des actes fous. Moi, j'avais liquidé tous les louis d'or de mon grand-père qu'il avait chaque année, il me donnait un louis d'or à mon anniversaire. Pouf, tout est parti. On est monté à la tabernacle et je peux vous dire qu'on ne regrette pas. Hein. Ça, c'est des dimensions de révélation. On est irrigué. Il y a une sève qui coule dans ces fêtes. C'est extraordinaire. Et puis, donc d'autres dimensions, c'est là, on vit dans la tente, à la soupe pendant une semaine. Et ça nous fait, ça rappelle l'Exode. Que Dieu a pourvu dans ce temps du désert, mais aussi ça nous parle aussi de la fragilité, le côté très très fugitif des stériles, et nous attend la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est Jérusalem qui descend de l'Est, donc ça nous parle de la précarité des biens terrestres, aussi quelque chose d'extraordinaire, une vérité très forte. Dieu veut faire de nous son tabernacle et sa tente. Dans le désert déjà, l'Asie. Le Dieu univers, hein, le Dieu du cosmos, a choisi de demeurer dans la tente de la rencontre. C'est énorme. Jean 1, 14, en grec, il nous dit la parole a planté sa tente, à Berclé, en 14, et c'est nos en grec, il a planté sa tente parmi nous. Et il a vernaclé pendant 3 ans, avec jour et nuit, avec la bande. Hein. Donc c'est vraiment demeurer au milieu, être avec. Et puis la fin finale de l'histoire, c'est quoi? Apocalypse 21, 3. Voici le tabernacle, avec le même mot, scanel, la tente. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il tabernaclera, en grec, même mot, dressera la tente. Avec eux, ils seront ses, pas son peuple. Ces peuples, en grec c'est ciel, ces peuples, dans la diversité des cultures, la diversité d'identité de chaque peuple, chaque nation, ils seront ces peuples, Dieu lui-même sera avec eux. Ça c'est de la répétition. Si la tente de Dieu avec les hommes, il dresse sa tente avec, ils seront ces peuples, Dieu lui-même sera avec eux. Dieu faire sa demeure en nous. Ça c'est une vérité très très. Et puis il veut la gloire de la maison, notre temple, la nôtre sera beaucoup de celle de la première. Agé le dit, c'est la maison collective. L'Église juive et messianique et puis chrétien, mais c'est aussi notre corps ressuscité qui sera beaucoup plus glorieux que celui d'Adam et Ève. Donc ça nous parle de ça, c'est la résurrection des corps qui est derrière. Et il y a une génération, je ne sais pas si c'est la nôtre, hein, moi j'aimerais bien que ce soit la nôtre, qui ne connaîtra pas la mort. Enfin, on sera juste transformé, c'est trop bien. Personnellement, j'aimerais pas mal quand même. Bon, on a avancé pour laisser des générations grandir. C'est Timothée, son enfant qui grandit, c'est tout. Au plan de mes, ça serait drôlement bien. Petite remarque. Vous vous rappelez quel était le métier de Paul? Voilà, un petit clin d'œil, faiseur de tentes. C'est le même mot en grec, hein. Il faisait des tentes. Et Priscille et Aquilas aussi. Donc il y a quelque chose quand même, dans le naturel, le naturel reflétait ce qu'il faisait spirituellement. Il préparait l'épouse de Christ, hein, à être ce temple. Donc c'est assez phénoménal, cette histoire, c'est extraordinaire. Donc, waouh, c'est magnifique. Ah oui, je vous rappelle, comment dire, Dieu veut t'incler en nous, hein, c'est pas seulement l'esprit de Dieu, hein, on sait maintenant, on est temple l'esprit, mais c'est plus que ça, c'est le Père c'est qui veut t'incler en nous. Et Émilie était hier soir, vendredi soir au tabernacle de Strasbourg, ils ont fait un tabernacle pour la fête tabernacle. Donc j'ai demandé, Dieu a dit quoi, il a fait quoi, c'est toujours intéressant à voir. Eh bien, figurez-vous, messieurs, dames, les Français, Dieu veut tabernacler dans nos pensées. Oh là 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 là, ça m'a, wow, ça m'a impacté, Dieu veut tabernacler dans nos pensées et les élargir. Pouh, parce que dans le cœur, ça ne gêne pas, nous. Dans nos pensées, c'est autre chose. Wow, tabernacler dans nos pensées. Alors, je crois que là, on va dire, c'est ce que tu veux dire, nos pensées, et les élargir. Et en 4, hein. Élargis ça de ta tente. Ne retiens pas, allonge les cordages, et puis rappelez-vous le message avec les pieux aussi. Élargis. Et puis, il mange avec nous. Donc, c'est assez énorme, cette histoire de tabernacle. Et il y a plein de choses à dire, beaucoup de facettes, mais il y a une facette de cette sur laquelle le Seigneur a attiré les regards, c'est bien de dire vraiment, vraiment, vraiment attiré les regards. Alors, on pourrait dire plein de choses, réunies du puisage de l'eau, il y a beaucoup de joie, enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire, les nations, etc. Il y a certainement des années, hein, on a fait nation, on a voilà, tout cet aspect-là. Et cette fois, c'était un allié. Il y a à un moment donné l'illumination de la nuit, hein, ça se passe la nuit, tout le temple est illuminé. Il y a plein de petites lampes partout. C'est énorme, il y a une tout le temple est illuminé. Et je sais pas où il y a ça, c'est fabuleux cette illumination de laquelle il y a les ténèbres, partout ailleurs il y a les ténèbres. Et puis, voilà, l'illumination du temple de Jérusalem. Les pèlerins qui fêtaient, venaient la nuit au temple situé sur les collines. Certains portaient des torches, des bougies, d'autres des lampes, ils visaient la colline avec leur lumière allumée. Dans une période où la lumière électrique n'existait pas, l'environnement du temple tout entier était soudainement illuminé avec une grande barre. Une luminosité qui se voyait parfaitement des montagnes alentour regroupées de la ville sainte. Quelle merveilleuse image! Écoutez bien, quelle merveilleuse image de la promesse de Dieu que dans un temps de ténèbres mondiales, la gloire du Seigneur se lèvera, nous, le temple vivant. Elle sera visible sur nous et les nations afflueront et viendront à sa lumière. Et c'est Ésaïe 60. Hein, l'Éternel couvre la terre, sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. Donc ça nous parle d'être nous, illuminés, d'être remplis de la lumière, d'être les flambeaux, d'être les phares, d'être porteurs de cette lumière. Et bien, c'est Christi qui a reçu cette lumière et qui a servi que tu étais illuminé, que là où tu allais, tu illuminais les personnes. Donc voilà, c'est un petit exemple avec Christi de ce que ça va faire pour chacun de nous, là où nous sommes, et pour le corps entier. Cette ville sur la montagne illuminée qui attire tout le monde, ce phare collectif aussi, ce phare individuel. Donc c'est un appel énorme d'être rempli de lumière. Et cette lumière, ça se travaille maintenant. Dieu, il est, dès qu'on est né de nouveau, c'est bon, l'esprit, il y a la lumière qui doit remplir tout notre être. Et là, cette semaine, c'était un peu le Seigneur a vraiment attiré mon regard sur Luc 11, parce que tu peux prendre Luc 11, parce que ce passage il est très fort. Et on va arrêter un tout petit moment dessus. Luc 11, 33 à 36 de mémoire, Luc 11. Hop. Luc 11, voilà. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché sous le bassin, mais la mettre sur le chandelier, afin que qui entre la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est ténèbre. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Alors là, ce passage est revenu en boucle. Waouh, quelque chose de très fort là-dedans. Donc, l'œil, lampe du corps qui éclaire tout notre être. Hein. L'œil, ça nous parle de la perception spirituelle, notre œil spirituel. Est-ce qu'il est en bon état? Et là, on va faire une checklist. Est-ce que notre œil spirituel est en bon état? Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à la longue, j'en ai beaucoup parlé de regard. Hein, et le dessin de Carlo, c'était un gros œil. Je dis, ouais, Seigneur, tu enfonces le clou là. Hein. Oh là 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 là. Tu enfonces le clou. Donc, notre regard, notre œil spirituel est hyper important. On dirait, pour faire une petite blague, ce serait la prunelle des yeux de Dieu. Hein. Et ça veut dire que l'esprit est ciblé par nous aussi. Et qu'il est un enjeu énorme. Donc, il faut maintenant qu'on voit qu'est-ce qui fait que notre vue peut être obscurci. Ah, les amis, j'ai commencé, j'ai pris une feuille, j'ai noté tout ce qui peut obscurcir la vue, je suis arrivée à 8 éléments, rien que ça. Alors, je vais les dire, alors, je vais demander, et puis si vous reconnaissez dans 1, 2, 3 ou 8, eh bien, je pense qu'un petit peu prière derrière, même pas un peu, on va pas prévoir notre prière, je crois vraiment que, et tout ce que le Seigneur a dit dans cette prière, partie louange et dessin prophète, il veut vraiment nous nettoyer notre vue. Vous voyez, il va vraiment regarder après où en est notre vision spirituelle. Ça peut tout le prière est impacté. Le corps de chacun, le corps collectif, on est tous impactés. Alors, on y va. Premier élément, je fais référence à un message récent de Luc. Il a cité Matthieu 14, vous savez, l'histoire de la tempête. Dans la Matthieu 14, il y a deux histoires de vue. Alors, dans le vent, qui est violent. Et la suite, Pierre eut peur. Donc, première chose, c'est regarder aux réponses adverses. et on fit, regarde les serpents bien devant. Pierre eut peur et s'en vit à perte de foi. Et le Seigneur répond : homme de peu de foi, pourquoi as-tu été ? Même chose avec les espions, hein, donc la terre promise, vous savez, ils ont vu la hauteur des géants, et puis foi a gelé, et puis ils sont tournés dans le désert jusqu'à la fin de leur vie. C'était terrible, la conséquence. Donc, regardez aux circonstances adverses, et regardez l'ampleur des problèmes. Ça, c'est très mauvais pour la vision spirituelle, très, très, très mauvais. Là-dedans, vous cochez, ok, je suis concerné. Alors, après, dans le même passage, vous avez les autres disciples, et avant, Matthieu 14, 26, ils virent Jésus marcher sur l'eau. Ben, quand même, c'est là, Jésus, hein. Mais seulement, ils furent troublés. Ils crièrent crainte. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Alors, ça veut dire quoi ? Manque de sens, de compréhension, de ne pas le reconnaître, de ne pas le voir. Quand il n'a pas la forme habituelle qu'on pense. Je veux dire, ça parle de mettre Dieu dans des petites boîtes. Ah, oh, c'est quoi ça ? Et puis, on est troublé, on a peur. Voilà. Donc, il y a deux problèmes de vue dans ce passage de Matthieu 14. Hein. Manque de connaissance, de compréhension de Dieu. Et parfois, c'est vrai, il faut le mettre. Dieu, il cache son amour dans des enveloppes bien noires. J'ai eu troisième fausse couche le jour de Noël, il y a pas de temps. J'ai compris, c'était une enveloppe, une lettre d'amour dans une enveloppe noire. Et parfois, on ne voit que l'enveloppe noire, on ne voit que à l'intérieur de l'enveloppe bien noire, des sens, et la lettre d'amour de Dieu. La lettre d'amour de Dieu, qui est venue quelques mois après. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour vous dire que c'est voilà, manque de connaissance, compréhension de Dieu, voir Dieu comme Jésus, comme un tout, voilà, c'était un peu. Mais on ne serait pas mieux. Hein. Après, alors, ce n'est pas pêle-mêle, si vous voulez, je n'ai pas de hiérarchie ni rien, c'est vraiment pêle-mêle. Troisième, c'est ce que dit, je me suis pas à chaque fois, le troisième élément, eh ben, ça, la paille et la poutre, c'est très bien, hein, paille et poutre. Ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment pratiquer l'action d'honneur, voir l'autre comme Dieu le voit, et pas le voir avec tous ses défauts, voir le répressif, voir l'vision du Christ. Bon, ça, c'est 7, verset 3 à 5. Le jugement de l'autre, hein, la paille et la poutre. Bon, ça n'a rien à voir aussi, quand même, je signale, avec le fait d'être amené éventuellement à reprendre un frère qui divague, qui diverge, qui fait n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, c'est l'esprit du jugement qui fait qu'on juge, on critique, on se plaint, etc. Hein. Donc, ça, c'est troisième élément. J'ai l'autre, Matthieu 7, 5, la paille et la poutre. Donc, le Seigneur dit bien, la poutre, tu as dans l'œil. Hein. C'est pas le dire, tu prends dans l'œil. Ensuite, quatrième élément. Ah ben. Ça part mal, ce passage. Amertume, ressentiment qui peuvent amener à détester un frère. Et c'est, vous savez, ce passage terrible qui nous dit, 1 Jean 2, verset 9 à 11, celui qui n'aime pas ce frère marche dans les ténèbres, il ne sait même pas où il va, les ténèbres ont obscurci ses yeux. Ah, c'est pas. Voilà. Ça, c'est un avertissement très fort. 1 Jean 2, verset 9 à 11, oui, c'est ça. 1 Jean 2, verset 11, tu peux prendre la suite. Marche dans la lumière, c'est très important, la marche dans la lumière. Celui qui dit dans la lumière, et qui est son frère, ou qui déteste, ou qui est peut-être amertume, ressentiment, enfin des choses négatives, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, occasion de chiner en lui. Celui qui aime son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et ça, c'est un avertissement très fort. Vraiment, Seigneur, montre-nous, on a du rentiment, on a du mal avec quelqu'un. Ouais. C'est vraiment, vraiment important, marcher dans la lumière. Il y a quand même, toujours dans 1 Jean, hein, pour marcher dans la lumière, on a quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'appelle ça les essuie-glaces. Quand il y a des péchés qui viennent dans notre vie, on trébuche, on tombe, on fait n'importe quoi. 1 Jean 1, 5 à 10, tu veux le prendre ? 1 Jean 1, 5 à 10, on a cet extraordinaire passage qu'on va vous conseiller de mémoriser, vous savez par cœur, comme vous le pratiquez. Il n'y a pas en lui. Dieu est lumière, il n'y a pas envie de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous prenons la vérité. Nous marchons dans la vérité, lui dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous, on continue. Oui, c'est pas péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Un péché, ça risque, si nous disons des excuses. Ah, j'ai des liens générationnels. Ah, j'ai telle blessure psychologique. Ah, si, ah, ça. Désolé, les excuses, sachez. Donc, le sang de Jésus, il ne marche pas pour les excuses. Il ne marche pas pour la justification, pour tout ça. Il marche pour les péchés. Et si on confesse péché, eh ben, ils sont effacés au sang de Jésus. Et la repentance, je crois que c'est quelque chose de très puissant. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, je pense quand même qu'on ne pense plus qu'on ne fait plus péché par la passion. Hein. On en fait énormément, on trébuche, on est juste, bien sûr, mais on trébuche, on tombe, il y a de la vie. Et quand le Seigneur montre, il faut traiter. Et régulièrement, hein, dans nos prières, le Seigneur montre des choses. Ok, on se prend et on fait ce qu'il faut, on traite. Et ça, c'est une habitude, hein. C'est une habitude à prendre pour marcher, demeurer dans la lumière. Tellement, tellement de marcher dans la lumière, parce que sinon, les yeux, ils sortent et on ne voit plus rien bien du tout, et puis ça devient de plus en plus grave, quoi. L'orgueil spirituel, 1, 2, 3, 4, 5, orgueil spirituel, c'est le cas d'Odyssée. Il se parle, c'est terrible l'orgueil spirituel. Il se croyait bien, il se croyait bien, comme il faut. C'est un peu ce pas d'église dans l'Occident, sont un peu dedans. Apocalypse 3, 17, 18, hein, tu vois pas que tu es misérable pour un glénu. On est bien, tout va bien. Voilà. Je rappelle, dans l'ouest de la France, ils avaient des magnifiques bâtiments, des magnifiques écoles, plein de gens, ça c'est sûr, plein d'argent. Il n'y avait pas d'amour là-dedans. Oh, c'était froid, froid, froid. Et c'était vraiment ça. Ils croyaient parce que la trésor plantorique, parce qu'ils avaient des beaux bâtiments, parce que voilà, des beaux programmes. Mais l'amour, oulala. Donc, oui, prions, les trois. Et je te conseille d'acheter un collier et de moindre des yeux. Après, un autre élément, 2, 3, 4, 5, 6. Séduction des richesses de ce monde. Voilà. Ah, bah, oui, c'est. Voilà, tout le monde très, très, très matérialiste, c'est facile de tomber dedans. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, Satan, Jésus, Satan montra à Jésus, dans Matthieu 4, tous les royaumes du monde et leur gloire. On regarde aux choses visibles. Je rappelle, Pierre de Martin, il a bien incité à regarder aux choses invisibles et ne pas focaliser sur les choses visibles. Et Moïse aussi t'inferme, dans Hébreux 11, hein, la galerie des champs de foi, il t'inferme comme voyant celui qui est invisible. Après, voilà, tu peux passer... Ah oui, non, une dernière chose, regarde à soi-même. Regarde à soi-même. Alors, quand on regarde à soi-même, je ne parle pas de rentrer en soi-même le fils prodigue, hein, c'est regarder à soi-même ses propres pensées. Avec, sans la lumière de Dieu, alors ça produit deux effets terribles, on le voit bien en littérature française, contre Rousseau, soit ça produit un orgueil phénoménal, type Rousseau, il a passé des bouquins, des gros, gros volumes à s'introspecter, à se justifier, face à ça, y compris plaquer ses cinq enfants, et un orgueil phénoménal, ou autre possibilité, une dépression phénoménale. Et de toute façon, le regard est complètement perdu, quand on regarde à soi sans la lumière de Dieu. Donc ça, c'est aussi un piège. Hein. Quand on tourne les yeux à lui, psaume 34, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Version implicite, quand on regarde à soi, on est dans la déprime et le regard se couvre de confusion. Donc, préférez plutôt la bonne application du psaume 34. Alors, lumière, ah oui, là, je vais faire plaisir à... Tu peux passer la petite vidéo. Alors là, ça va être... Bon.
Regardez.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Les yeux où ils sont. J'aime bien le regard de car.
Prêtre du Zali, tu peux avoir confiance en moi. Attention, Vincent. Fais un son sans méfiance. Je suis là. Aie confiance. Le silence propice le berce. Souris et sois complice. Laisse tes transglisses et tes amis dans la trice. Tu dors, petit?
Oui.
Aie confiance, oui, crois en moi. Je puisse veiller sur toi.
Oh, voilà, on peut s'arrêter.
Oh, qu'est-ce que c'est?
Alors, le serpent. Et là, il y a plusieurs possibilités. Avec les 100, Genèse 3, hein. Ève, elle a forcément regardé ce que le serpent regardait, avec ce qu'il racontait, et elle s'est laissée complètement séduire le serpent. Alors, j'aime bien cette vie, parce que si vous voyez, il était sur une position relativement élevée, à l'abri, sur son arbre. Vous avez vu ce qui se passe? Il change de position, il descend, et après, il se fait saucissonner. Il y a un autre passage, c'est ça. Il perd ses repères, et puis après, il descend. Il change de dimension, il redescend sur Terre, enfin dans les pâquerettes. Après, il se fait ensauciner, il n'a plus de liberté, il est à l'étroit, terriblement étroit, comme étouffé, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je peux vous dire, c'est vrai, tout ça, c'est très 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 vrai. Donc ça, c'est la manière douce, enfin, derrière, c'est la même chose, c'est la mort, hein. Soyons clairs, derrière, c'est la mort qui est visée. Il y a le prédateur, c'est le tic, c'est aussi un prédateur, une autre sorte de prédateur. Le serpent, ça peut être tout en douceur, ça très subtil, c'est progressif, ça vous enveloppe. Ça. Et après, vous dites, mais je suis à l'étroit, je ne sais pas bien. Et en fait, vous avez mis votre confiance là où il ne fallait pas, ou vous avez coulé des voies séductrices. Bon, ça, c'est la manière relativement douce. Le serpent, ça fait autre chose. Pensez à Paul, hein, un serpent brutalement qui s'approche, il sort des broussailles, des malédictions, là, paf, il te prend, et c'est très impressionnant, quoi, parce que il fait quoi, il veut me piquer, et puis ça porte des piqûres et tout. Donc, vous rappelez l'histoire de Paul à Malte, hein, il a dû secouer pour faire tomber le serpent dans le feu, c'était violent quand même, hein. Et puis, vous avez aussi le serpent qui, vous savez, le genre crotal, il se contraint brutalement, vous marchez comme ça, bof, il y a le serpent qui est là, très impressionnant, très timidant, et il lance son venin, oh, et c'est pétrifié, quoi, voilà, je vous ai marqué, ça c'est la manière presque douce, aussi belle que les autres, mais plus subtil, quoi. Donc le serpent, bah oui, on y a affaire. Et remarquez, dans la parole, le serpent, il est où par rapport à nous? Vous marcherez, et c'est sous nos pieds, on n'a jamais dit qu'il fallait regarder, vous comprenez? C'est marché sur l'instant et c'est scrabouille. Ça existe en français, j'aime beaucoup ce mot, les scrabouilles. Ou autre version pour les prophétiques, on est des aigles, ça plane, on est dans le troisième ciel, tranquille. Ça arrive beaucoup, il est là Fabrice? Non, ça arrive beaucoup. On est dans la paix de Dieu, on sort du temps du matin à l'école, vous savez, salle du trône, dans la paix. On sort de là, on descend au secrétariat, et là, instant, c'est un comportement possible, vous voyez ce que je veux dire. Et là, le défi, c'est de, bam, avaler le temps et repartir dans le déleste, vous comprenez? Sans se laisser... perturbé par la de serpents qui grouillent parfois de classe. J'ai besoin de 3 fois par jour pour rester dans la paix. Hein. Je trouve que le matin, c'est totalement insuffisant. On l'a dit, dans un autre temps de jeûne, ça va beaucoup aider. Parce que parfois les serpents, ils veulent qu'on regarde à eux. Comprenez le problème. Ils veulent attirer leur attention. Plus subtil, on est dans des temps, ok, des crises, il fait beaucoup de ramenage. Ce qu'ils voudraient, j'en prie, que l'on se fixe nos ressources. Comprenez. Et je me rappelle, c'est Wenshaw qui nous disait, regardez à Christ qui vient. Ne regardez pas tout ce que fabrique la crise. Parce qu'évidemment, il fait plein de choses. Mais si on dit, vous avez vu ce qui se passe là, vous avez vu tout ce qui se passe. On regarde que le négatif, tout ce qui est perturbé, qui est tumulte. Et parce qu'à la nuit, c'est du tumulte bourré. Le Seigneur dit, regardez à moi, il y a lieu de repos. Pour ça, je nous encourage, les TTDR, les temps de la rencontre, les maisons prières, c'est fabuleux. Parce qu'on prend l'atmosphère du ciel, vous voulez très. Il y a une paix extraordinaire, un manteau de paix. Et Gédéon, le Seigneur s'est révélé comme Adonai Shalom, l'Éternel ma paix. Alors que t'es bourré de misérites, d'ennemis, de plein de choses, t'amènes ma paix. Il y a une paix pour le peuple de Dieu, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et donc le regard, c'est crucial qu'on regarde dans la bonne direction. Donc là, je crois que j'ai fait peut-être beaucoup d'autres choses qui poussent notre regard, mais vite, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, je crois que je vais laver notre regard. Ah oui, on est appelé à être une église Philadelphie, de type Philadelphie. Hein. Philadelphie, c'est l'église qui n'a pas eu de reproche, tellement elle est bien. Et dans le grec, c'est pareil, malheureusement pas en français, 3 fois, Dieu dit « voix ». C'est traduit par « voix », c'est « voix ». Voix, voix. Le regard est très important, Philadelphie, et devient cette colonne dans le temple. Elle n'en sort plus. Elle demeure dans la présence de Dieu. Elle devient ce temple vivant. Elle devient la lumière de Dieu. Il y a l'identité de la nouvelle Jérusalem qui est marquée en elle. Donc c'est quelque chose de très fort. Et donc je vous propose de terminer par rapport à tous ces questionnaires-là, ces 8 occasions d'obscurcissement de notre vue, que le Seigneur, Saint-Esprit, puisse nous dire là, tu t'es laissé obscurcir. Mais le Seigneur veut vraiment laver le regard. Donc, je peux prier. Ça, ça va être par un simple moment. Attends, Vito, tu as cœur d'intervenir, mais... Oui, vas-y.
À cause du message, je vais juste partager un truc. Et que je vais partager avec toi, donc ça me dérange pas de la marque. Des premières fois, c'est moi, ça, j'avais eu un songe, un rêve, où j'avais vu l'église qui était assez fatiguée. C'est comme s'il y avait la rivière en crue. Et à un moment donné, sont arrivées 2 belles paires. Du gars, ça s'est arrivé là-devant. Et c'était assez impressionnant qu'elles étaient. Comment elles avançaient. Puis du coup, elles sont entrées dans un creux d'eau sous le bâtiment, elles plongeaient en dessous. Et oups, ça c'est pas déjà pas beau. Mais ce qu'il y avait sur-là, c'était aussi un petit piton qui était là. Et qui était homme, c'était chez lui. Et puis après, ce que je sais, que ce piton, c'était lui en fait le maître des lieux. On a vu un petit piton sur ta petite vidéo. Ce qu'on fait avec cette fois qu'on voit le truc, parce que finalement, c'est bien beau de voir des choses négatives, qu'est-ce qu'on en fait. Et j'ai pas la réponse. Okay. Je crois qu'elle m'a répondu ça. Parce que justement, c'est aussi que prophétique arrive fort. Et en même temps, l'esprit de Python, sa capacité d'être quelque chose qui devine les choses, qui voit les choses, pour la confronter les vipères, l'esprit de Python. Et que ça fait que l'esprit de Python, tu dégages, dors. Et cet esprit de Python peut être capable de dire des choses vraies, parce qu'elle dit des choses vraies. Et regardez, le serpent dans le jardin, elle l'a amené à découvrir, elle l'a amené dans du bien et du mal. Et nous, vous la connaissance sur des choses qu'on ne devrait peut-être même pas savoir. Je crois que cet esprit est en train de travailler ensemble, pour voir des choses qui ne devraient pas être. Comme nous amener à du voyeurisme, comme nous amener à des endroits où on ne devrait pas être. Ce que je veux dire, pas là, c'est que soyons attentifs à ce que Dieu veut. On peut nous laisser piéger, et là on revient à laver. Donc, quelque part, ce serpent va nous montrer des choses qui vont nous piéger. C'est pas le piège. Et je crois que c'est l'aigle qui vient, qui vient, c'est aussi pour moi, effectivement, comme tu l'as dit bien, c'est ces magnifiques serpents qui se traînent partout, qui se racrouillent et qui se débarrassent. Amen. On vient devant toi parce qu'on veut que tu viennes avec Dieu. Je le disais, mais cherchez un collier, avant que tu voyes, tu es aveugle. Alors, je prie de venir laver nos yeux, là on ne voit pas. Que les éclats qui sont devant nos yeux tombent. Que ce qu'ils veulent disparaisse. On vient avec toi te demander de. Enfin, on t'accorde ce droit de venir montrer ce qui brûle prisonnier, ce qui brouille notre vision, ce qui parfois la rend déviante, ce qui peut la rendre parfois culpabilisante, accusatrice, soit vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Papa, on veut comme toi tu vois. Et on te pardonne pour toutes les excuses qu'on peut parfois mettre, mais je suis comme ça, je n'ai pas changé, c'est pas de ma faute. Papa, on te demande pardon pour toutes les excuses qu'on peut mettre, pour que j'ai une façon d'être, de voir. Papa, mais en même temps, ton regard, c'est un jugement. Si tu te vois des choses, c'est pour nous emmener plus loin. C'est pour nous libérer. Jésus. Seigneur, merci que cet instant, tu t'en veux nettoyer. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Mais c'est pas ça, je me dis, parce que Paul, me semble-t-il, est devenu aveugle. Quand il s'est réveillé, c'est les écailles sont tombés les yeux. Et c'est là que je vois les écailles de poisson. Mais comment, quand les écailles de serpent qui l'empêchent de voir, en train de marcher. Alléluia. Papa, on veut déclarer aussi à toutes ces choses qui nous poursuivent. Comme l'a dit Amélie, mais ça suffit. Toutes ces divinations qui se lèvent contre chacun de nous, qui se lèvent contre Josué. On dit ça suffit maintenant. Prière. Nous déclarons paisiblement, avec force et écoute, C'est celle qui envie d'aigle pour venir manger ce qui essaie sournoisement de nous empoisonner, ce qui essaie de nous séduire, ce qui essaie de nous conduire détourner, ce qui essaie de nous affaiblir, de nous détourner. C'est qu'on veut garder les yeux fixés sur toi. Allez bien.
Je voudrais juste encore compléter. En venant ce matin, j'avais vraiment cette prière dans ton autorité. Et je crois qu'en ces temps, vraiment, le Seigneur nous rappelle que c'est son autorité qui agit. C'est lui qui lève. Et vraiment, je crois qu'il s'est passé ce matin dans ce que nous avons proclamé. C'est son autorité qui se lève. Et deux choses que je recevais pour un enseignant qui, quelquefois aussi, qui part de notre responsabilité, il y a le péché, mais il y a des blessures. Alors, parfois, vous savez, tout commence par reconnaître quand on dysfonctionne. Quand on se rend compte qu'on a une réaction qui n'est pas juste, la parole est clairement, eh bien, il faut commencer par le reconnaître. Oups! Pourquoi est-ce que j'ai réagi avec mon fils, avec ma femme, avec mon mari, avec mon frère, avec sœur? Et là, le reconnaître, ça commence par le reconnaître. Seigneur, pardon, j'ai mal réagi. Et après, faisons cette prière et montre-moi pourquoi. Montre-moi. Et vous savez, à chaque fois qu'on fait cette prière, le Seigneur, il lui répond. Et non seulement parce que quand il me demande, ben, tu as une réaction, parce qu'il y avait eu ça, et là, t'as jugé. Non, tu as une réaction. Ou alors, ben là, il y a cette blessure. Et vous savez, quand ils viennent, je vous rappelle, ce midi, les disciples viennent vers Jésus, ils demandent, on devra pardonner combien de fois? Il en pardonnera 7 fois. Si ton frère te fait du mal, 67 fois, 7 fois. Par jour. 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire que 77 fois d'occasion dans la journée peut-être blessé. Mais après, il y a des choses aussi qui viennent plus loin, dont on se souvient pas. Mais comme Diane, ça sont des excuses. Ça n'est plus une excuse. Je viens devant Dieu, qu'on dit, mais montre-moi. Et Seigneur, je veux te remercier. Parce que tu dis que tu nous envoyais le Saint-Esprit Jésus. Tu as dit aux disciples qu'il va aller m'écurer, nos pères. Parce que tu nous envoies l'Esprit. Ce matin, nous voulons honorer le Saint-Esprit. Qui tient chaque jour avec nous. Qui est toujours à nos côtés. Nous disons, Père, nous reconnaissons ton autorité sur nous. Ton autorité sur l'Église. Notre Église, l'Église grandeur. Nous recevons encore de cet esprit de conseil à nos côtés. Viens nous dire chacun pour pas ensemble dans ce chemin. Tu nous libères ou tu nous laves. Tout simplement, montrer qui tu es et qui nous sommes pour toi. Et à nous libérer de la condamnation. Dis-moi, nous allons marcher ensemble, Seigneur, vraiment dans ta lumière. Vraiment, nous accueillons la lumière du Christ au milieu de nous. Fais des tabernacles. À nous a rappelé, nous serons avec toi. Et parce que tu nous rappelles que tu es toute notre joie.
Voilà, bien, merci. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Bon week-end, j'ai bien entamé. Un bon dimanche. Donc, dimanche,